France Culture.
Bonjour Thomas Cluzel.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. La diplomatie dite de la navette se poursuit encore aujourd'hui à Riyad sans que les Américains ne soient véritablement parvenus jusqu'à présent à un quelconque consensus dans ces négociations séparées donc entre Ukrainiens et Russes. Nous serons à Moscou dès le début de ce journal. On se rendra également à Jérusalem après qu'on a appris l'arrestation par l'armée d'Amdan Balal, co-réalisateur palestinien de No Other Land, oscarisé cette année meilleur film documentaire. On s'intéressera par ailleurs à l'expérience lancée par un quotidien milanais au ton résolument irrévérencieux, lequel publie une édition rédigée par une intelligence artificielle. L'actualité en France, cette fois-ci, c'est notamment la nouvelle audience ce matin au procès de Gérard Depardieu, qui a enfin pris la parole au tribunal correctionnel. Et puis avec notre invité, la défenseure des droits Claire Hédon, on détaillera le dernier rapport annuel sur le respect des droits des personnes en France. Après des heures de négociations à huis clos en Arabie Saoudite, l'administration américaine va-t-elle apprendre à ses dépens que mettre fin à une guerre à laquelle les deux belligérants accordent aujourd'hui une importance existentielle est un processus diplomatique complexe où les relations interpersonnelles ne peuvent pas toujours prévaloir sur l'issue des pourparlers. À l'optimisme explosif affiché dès le départ par le président américain Donald Trump répond désormais la prudence de son homologue russe Vladimir Poutine. Ce matin, Moscou affirme vouloir poursuivre son dialogue avec Washington, mais aussi d'autres interlocuteurs, dont l'ONU, et puis surtout l'annonce d'une trêve, même limitée, qui était pourtant sur la table des négociations, se fait toujours attendre. Sylvain Tronchet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Correspondant de France Culture à Moscou, la nuit dernière, la Russie a encore lancé 139 drones et un missile balistique contre l'Ukraine. Existe-t-il des signes, Sylvain, qui pourraient malgré tout plaider pour un dialogue encore constructif aujourd'hui avec les États-Unis ?
Alors, il y a quelques signes timides. D'abord, et tout le monde l'a noté ici à Moscou, la durée des discussions. Hier, 12 heures d'échanges entre Russes et Américains, 3 pauses pour apparemment appeler les capitales. C'est un record de durée, notent ici tous les médias russes, et cela signifie qu'il y avait certainement beaucoup à discuter. Officiellement, le Kremlin avait dit que la délégation envoyée à Riyad n'avait un mandat de négocier uniquement sur le passage des cargos en mer Noire. C'est également ce qu'a répété ce midi à Moscou le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, mais comme le note le journal pourtant très pro-Kremlin, comme Somolskaya Pravda, après les 5 premières heures de discussion, même les plus naïfs ont cessé de croire qu'il s'agissait du seul sujet abordé. Alors, de quoi ont-ils parlé ? De partage de territoire, de lignes de démarcation, comme le disait Donald Trump hier, ou de normalisation des relations russo-américaines, comme Moscou le rappelle régulièrement, pour mieux signifier que la question de l'Ukraine n'est à son sens qu'un problème parmi d'autres à régler avec Washington, on ne le sait pas formellement. Mais le négociateur russe Grigory Karasin a dit que les négociations allaient se poursuivre en intégrant d'autres pays et les Nations Unies, autant d'éléments qui peuvent laisser penser qu'un début de trêve serait sur la table. À Riyad, les Américains sont revenus ce matin vers la délégation ukrainienne pour un nouvel échange. À Moscou, on dit que s'il n'y a pas eu de déclaration finalement publiée ce matin, c'est à cause des Ukrainiens, mais les discussions semblent se poursuivre. Pendant ce temps également, ceci dit, la guerre continue.
Merci Sylvain Tronchet en direct de Moscou. Fort du soutien de la nouvelle administration Trump, Benjamin Netanyahou a désormais les coudées franches pour mener sans sourciller sa guerre de représailles totale contre les Palestiniens, des bombardements massifs suivis d'opérations terrestres qui ont fait au moins 792 morts depuis que l'État hébreu a rompu unilatéralement le cessez-le-feu en vigueur avec le Hamas. Et puis, renforcé par la fin de la trêve à Gaza qui a permis le retour de l'extrême droite dans la coalition au pouvoir, l'armée israélienne soutenue par les colons fondamentalistes semble plus que jamais déterminée à poursuivre ses actions en Cisjordanie occupée. Thibault Lefèvre, bonjour.
Bonjour Thomas.
En direct de Jérusalem, hier, l'armée a notamment procédé à l'arrestation d'Amdan Balal, co-réalisateur de No Other Land, oscarisé cette année meilleur film documentaire.
Oui, hier, peu après 18 heures, selon plusieurs témoins sur place, au moins une vingtaine de jeunes hommes masqués, armés de pierres, de couteaux et de bâtons, sont arrivés autour de l'école du village de Soussia. La nuit est tombée, ces colons israéliens détruisent des réservoirs d'eau, ils brisent des vitres de voitures et ils frappent Amdan Balal. Des Palestiniens jettent des pierres. La police et l'armée arrivent, les jeunes des collines s'enfuient et le co-réalisateur de No Other Land est évacué en ambulance. C'est là que les versions divergent. Selon des proches d'Hamdan Balal, il a été extrait du véhicule puis arrêté par des soldats pour être interrogé avec deux autres Palestiniens et un Israélien impliqué dans les affrontements. La police confirme les interpellations, qualifie les détenus de terroriste, réfute avoir appréhendé Hamdan Balal dans l'ambulance, mais assure qu'il est soupçonné d'avoir lancé des pierres sur les forces de l'ordre. Il pourrait comparaître prochainement devant un tribunal israélien.
Alors au-delà de cette arrestation forcément médiatique, Thibault, il faut peut-être préciser que ces arrestations sont en réalité quotidiennes en Cisjordanie.
Oui, eh bien Thomas, c'est toujours le même procédé. Un colon descend seul de sa colline, il provoque les habitants du village arabe en contrebas qui le chassent, puis des dizaines d'autres arrivent, ils affrontent des Palestiniens jusqu'à ce que l'armée ou la police interviennent. Le problème, c'est que depuis le 7 octobre, les milices d'autodéfense des colonies, ce qu'on appelle en hébreu des Kitat Konenout, ont été intégrées à l'armée israélienne. Ce sont donc désormais des colons avec des uniformes qui sont censés mettre fin à des violences impliquant d'autres colons, un conflit d'intérêts évident, alors que le gouvernement israélien soutient plus que jamais l'annexion d'un territoire, la Cisjordanie occupée, qu'il appelle, comme l'administration américaine, par son nom biblique, la Judée-Samarie.
Merci Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem.
L'avenir judiciaire de Jair Bolsonaro entre les mains de la Cour suprême.
C'est aujourd'hui que les juges doivent décider d'ouvrir ou non un procès pénal contre l'ancien président d'extrême droite que le parquet accuse d'avoir fomenté un coup d'État au lendemain de l'échec de sa tentative de réélection. Comme chaque soir depuis l'arrestation puis l'incarcération du maire d'Istanbul, une foule immense est à nouveau massée hier soir dans les rues de la ville, mais pas seulement, puisque la mobilisation s'étend désormais à l'ensemble de la Turquie, y compris d'ailleurs dans les zones les plus conservatrices, et ce malgré la répression policière.
Direction à présent l'Italie pour une expérience aussi passionnante qu'inquiétante dans le monde de la presse.
Oui, durant un mois, quatre pages du quotidien Il Foglio, journal de centre-droit, sont entièrement rédigées par la seule intelligence artificielle. Et le résultat, vous allez l'entendre, va bien au-delà de simples résumés factuels. C'est une correspondance à Rome signée Bruno Duvic.
Voici une analyse de politique internationale pointue dans le Foglio.
Diplomatie de Trump, retour au réalisme.
Article et titre fournis par l'intelligence artificielle. Claudio Ceraza, le directeur, a demandé à ChatGPT de résumer une interview aux USA du médiateur de Trump en Ukraine, mais avec le style et la ligne du journal. Autre exemple de demande, à l'heure où Giorgia Meloni doit composer avec le ministre rebelle Matteo Salvini.
Écris-moi un article qui explique comment Meloni veut montrer qu'elle est d'accord avec Salvini alors qu'elle ne l'est pas.
En titre, cela donne « Meloni funambule ». Guidée précisément, l'IA peut donc adopter un point de vue, voire faire preuve d'humour. Mais elle ne peut pas tout. Ruggero Montenegro est au service politique.
L'intelligence artificielle produit des articles basés sur des événements passés. Ce sont des interprétations de ce qui a déjà eu lieu. Elle ne peut pas dénicher de scoop.
Peu d'erreurs factuelles depuis une semaine, mais un gros bug dans un article sur l'antisémitisme, un épisode complètement inventé. Personne n'a compris comment.
Midi 38 sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Au premier jour de son procès hier au tribunal correctionnel de Paris, Gérard Depardieu, tout de noir vêtu, la démarche parfois hésitante, était restée quasi muet, laissant à son avocat le soin de monopoliser les débats, le doigt accusateur pointé vers les plaignantes qui accusent l'acteur d'agression sexuelle. Ce matin, l'audience a repris et cette fois-ci, Gérard Depardieu a pris la parole. Julie Paco, bonjour.
Bonjour à tous.
En direct du tribunal, et si l'acteur s'est donc exprimé ce matin à la barre, c'est d'abord et surtout, Julie, pour contester les faits.
Bien entendu, j'ai une déclaration à faire, débute Gérard Depardieu, vêtu de noir, assis sur son tabouret face au pupitre, les mains appuyées contre la barre. Ça prendra du temps, car c'est très émotionnant, déclare l'acteur, qui détaille pendant plus d'une heure sa version des faits. Après avoir longuement digressé sur sa carrière et les origines du film Les Volets Verts, développe le premier échange qu'il a eu avec Amélie, l'une des plaignantes, alors décoratrice sur le tournage. Assis dans l'entrée sur son cube, il l'a d'abord pris pour la propriétaire des lieux, lui parle d'une peinture de l'appartement. Elle dit que vous avez eu des propos graves. graveleux, l'interrompt le président du tribunal. Il y a grossièreté et vulgarité, s'explique Gérard Depardieu. Je peux dire chatte sur un plateau, par exemple, ça m'arrive, je trouve ça drôle, tente-t-il de justifier. Dans cette ambiance de tournage, donc agacé, dit-il, par le comportement d'Amélie, il reconnaît l'avoir pris par la hanche pour ne pas glisser, joignant le geste à la parole et se justifiant qu'avec ses 130 kilos, il ne pouvait pas se lever, et niant toute intention sexuelle dans son geste. Gérard Depardieu, avec donc le même langage fleuri qu'il reconnaît adopté sur les tournages, se défend de ploter les femmes, d'être un frotteur dans le métro. C'est un état de vice que je ne connais pas, dit-il. Et si Amélie a pu être choquée, car je la mettais en doute professionnellement, je ne vais pas m'amuser à 76 ans et 140 kilos à mettre une main aux fesses. Je ne suis pas Émile Louis, lance Gérard Depardieu, dont les explications confuses suscitent des soupirs dans la salle d'audience. Relancé par le président sur le traitement médiatique des premières accusations, l'acteur de 76 ans alerte. Ce mouvement va devenir une terreur et ces femmes qui l'accusent d'être un violeur, elles feraient mieux de méditer sur cette citation de Madame de Staël, la gloire et le deuil éclatant du bonheur, lance l'acteur. Il encourt 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
Merci Julie Pacaud, en direct du tribunal correctionnel avec les moyens techniques de Nicolas Mathias.
Après 10 semaines de procès, place au réquisitoire contre Nicolas Sarkozy.
À partir d'aujourd'hui jusqu'à jeudi, les procureurs vont devoir dérouler méthodiquement leur vision de ce dossier absolument tentaculaire dans lequel l'ancien président est soupçonné d'avoir noué un pacte de corruption avec le richissime dictateur libyen Muammar Kadhafi afin qu'il soutienne financièrement sa campagne présidentielle victorieuse de 2007, jugé notamment pour corruption, recel de détournement de fonds publics et association de malfaiteurs. Nicolas Sarkozy encourt 10 années de prison. Rappelons que l'ex-chef d'État condamné en appel dans l'affaire Big Malion a déjà écopé d'un an de prison ferme dans l'affaire dite des écoutes. La réponse judiciaire est-elle la solution à tout? Le Sénat débute aujourd'hui l'examen d'une proposition de loi adoptée le mois dernier à l'Assemblée et censée lutter contre la délinquance des plus jeunes. Reste que l'initiative de l'ex-premier ministre et actuel patron du parti présidentiel, Gabriel Attal, très largement décriée d'ailleurs chez les professionnels du monde de l'enfance comme de la justice, révèle aussi des fragilités au sein même de la coalition gouvernementale.
Quelle est aujourd'hui l'ampleur des discriminations en France, et notamment celles liées à l'origine ?
Entre 2022 et 2024, plusieurs études ont mis en évidence une augmentation préoccupante des discriminations et des actes haineux, ce dont s'alarme ce matin dans son rapport annuel Défenseur des droits, héritier du médiateur de la République. Alors plusieurs raisons à cela sont avancées, un contexte économique défavorable, mais aussi un contexte de polarisation des opinions nourri notamment par certains discours politiques ou médiatiques. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction, la Défenseur des droits, Claire Hédon. Bonjour madame.
Bonjour Thomas Cluzel.
Alors de manière assez paradoxale, vos services observent, eux, une diminution des réclamations reçues dans ce domaine de l'ordre, je crois, de 15%, sans pour autant en conclure évidemment que le phénomène des discriminations recule, puisque je le disais, d'autres institutions constatent au contraire leur augmentation. Cela signifie qu'il faut davantage y voir une tendance au non-recours de la part des victimes. Comment expliquer cette évolution ?
Effectivement, vous l'avez dit, hein, toutes les études, les enquêtes, que ce soit de l'INSEE, du ministère de l'Intérieur, nous, le baromètre qu'on fait avec l'Organisation internationale du travail, montrent une augmentation des discriminations, mais qu'on ne voit pas dans les réclamations. Et vous avez raison de dire, c'est très révélateur du non-recours. Et il faut chercher à comprendre pourquoi les victimes ne vont pas ou devant la justice ou devant une institution comme la nôtre. La peur des représailles est absolument omniprésente. Aussi, l'impression de savoir en quoi ça va résoudre concrètement leurs problèmes, l'impression d'avoir une absence de preuves. Et sur toutes ces questions-là, on dit mais vraiment, appelez-nous, on a une plateforme anti-discrimination, le 3928, où nous pouvons vous donner des conseils. La question des représailles, je voudrais insister là-dessus parce qu'elle est omniprésente dans nos réclamations. J'ai en tête une femme qui se retourne vers son employeur en dénonçant un harcèlement sexuel. Et qu'est-ce qui se passe? Elle est licenciée pour dénonciation calomnieuse. Et nous, dans l'enquête que nous avons menée, nous avons pu prouver d'abord que 4 autres personnes avaient démissionné dans les mêmes circonstances et que la personne auteur du harcèlement avait fait la même chose dans son entreprise précédente et dans celle d'avant. Donc vous voyez bien comment ça peut se retourner contre les personnes qui osent dénoncer une situation de discrimination. Et donc on ne peut pas faire porter la lutte contre les discriminations uniquement sur les victimes en leur disant bah, vous devez porter plainte ou vous devez aller devant l'institution du défenseur des droits. Il faut des politiques publiques à la hauteur du principe d'égalité qui est quand même un des fondements de notre République.
Alors justement, Claire Hédon, vous regrettez aujourd'hui que la lutte contre les discriminations se réduise trop souvent à des politiques ponctuelles, sectorielles, et dans le même temps que ces actions ne soient pas suffisamment portées par une action de l'État qui engage l'ensemble des pouvoirs publics. Concrètement, que devraient faire, selon vous, les autorités pour porter la lutte contre les discriminations à une échelle plus globale?
D'abord, je crois vraiment qu'il faut des grandes campagnes d'information sur ce que sont les discriminations. C'est donc une inégalité de traitement dans un des domaines prévus par la loi. Ça veut dire à la fois l'emploi et l'accès aux biens et services, donc l'accès au logement, et dans un des critères prévus par la loi. Il faut aussi expliquer en quoi c'est délétère pour les personnes, ça on le comprend bien, mais aussi pour l'ensemble de la société et pour notre cohésion sociale. En fait, ce rapport annuel, qu'est-ce qu'il traduit? On a mis en avant effectivement les questions de discrimination et de difficulté d'accès aux services publics liés à la dématérialisation, mais en fait ça traduit de nombreuses atteintes aux droits. C'est pas simplement un rapport d'activité sur notre institution, je dirais c'est un rapport sur l'État et les difficultés d'accès aux droits. Et donc ce que nous disons, c'est que les pouvoirs publics doivent prendre en main cette lutte contre les discriminations en travaillant sur l'ensemble des critères. On peut avoir tendance à penser que, bon, bah, si on est une femme, il faut s'occuper essentiellement de la question égalité femmes-hommes. Mais en fait, quand on commence à toucher à un des critères, que ce soit le handicap, que ce soit l'orientation sexuelle, que ce soit l'origine ou les inégalités femmes-hommes, c'est à l'ensemble des discriminations qu'il faut s'attaquer.
Une dernière question, l'accès aux droits des personnes est généralement plus fragilisé lorsque celles-ci sont marginalisées, c'est le cas des étrangers, on pourrait également citer les personnes détenues. Diriez-vous que le consensus collectif autour du respect donc des droits de certaines catégories de la population a tendance à s'éroder aujourd'hui?
Oui, moi je suis en fait une inquiète d'une fragilisation des droits et des libertés avec un discours qui est assez préoccupant sur les droits, qui les font apparaître comme des obstacles et des contraintes, et un peu comme si on oubliait qu'ils sont là au contraire pour protéger les personnes et qu'ils nous réunissent pour faire société. Et quand on commence à toucher les droits de certains, en fait, on commence à toucher aussi les droits de l'ensemble de la population. Et donc, nous sommes tous concernés par ces atteintes aux droits. Il faut un sursaut démocratique. Je sens et j'observe une fragilisation de l'état de droit quand on ne respecte pas concrètement les droits des personnes.
Et l'on terminera par ces mots. Merci Claire Hédon, défenseur des droits, d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
Meilleures conditions de travail et rétribution à la hauteur des efforts engagés.
Voilà 3 mois maintenant que les salariés de la Société Générale cherchent à faire entendre leur voix en vain, raison pour laquelle l'ensemble des syndicats de la banque appellent à une journée de grève aujourd'hui. Et ce, pour la première fois depuis l'arrivée du nouveau directeur général, lequel mène aujourd'hui plusieurs chantiers de transformation, avec par exemple la vente des filiales, jugée moins rentable, mais aussi une chasse aux coûts à tous les étages, dont l'impact est particulièrement fort sur l'emploi. 3700 suppressions de postes toujours en cours, auxquels viennent s'ajouter environ 950 suppressions annoncées en début d'année dernière. Même s'il n'a pas été lâché en rase campagne, le puissant syndicat agricole FNSEA n'a plus la majorité absolue depuis les dernières élections professionnelles. Autant dire que son congrès annuel, qui s'ouvre à partir d'aujourd'hui à Grenoble, bien que placé sous le signe de la combativité, sera aussi et surtout l'occasion d'un examen de conscience. Alors certains se disent notamment victimes de la crise politique. Reste à savoir comment le syndicat peut encore continuer à attirer des agriculteurs de plus en plus partagés aujourd'hui entre désintérêt et colère. Catherine Pétillon a posé la question à son secrétaire général Hervé Lapi.
Il y a une forme de désarroi dans les campagnes qui sont exprimées aussi au moment des élections aux chambres d'agriculture, des problèmes de revenus, des problèmes de reconnaissance, de dignité. Et donc, il y a de la colère qui s'exprime, et ça, on le sait depuis 2 ans, hein, on ne l'apprend pas. La vraie difficulté qu'on a, et que je pense qu'on a eu pendant ces élections aux chambres d'agriculture, c'est que toutes les négociations que nous avons menées avec les 4 premiers ministres ont été bloqués pendant presque 1 an. Et donc, il y avait une forme d'exaspération et de désespérance de la part des agriculteurs en disant « mais c'est pas possible, tout ce qu'on négocie, ça va jamais arriver ». Dans les départements, en fait, la proximité, c'est ce qui est notre fer de lance. Et donc, il faut qu'on ait des présidents cantonaux ou d'arrondissements dans tous les territoires qui soient en capacité de représenter les agriculteurs et puis de les accompagner et de les écouter. Dans les endroits où on a un gros maillage syndical, ça tient, on est capable d'expliquer les choses, et là où on est un peu moins costaud, c'est plus difficile. Et je pense que le syndicalisme doit se réformer aussi, parce que faut faire ses preuves de ce qu'on apporte, quoi. Et dans ces élections, on voit aussi qu'on a une partie de nos adhérents qui viennent chercher le service chez nous, mais au moment de voter, ils votent contestataires, parce qu'ils sont exaspérés de leur situation économique, et donc faut l'entendre aussi.
Voilà, Hervé Lapi, secrétaire général de la FNSEA, au micro donc de Catherine Pétillon. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec encore quelques averses orageuses des Pyrénées aux Alpes et jusqu'en Corse, partout ailleurs. Le ciel sera globalement sec et lumineux. Quant aux températures, elles seront comprises entre 11 et 17 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.